d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bienvenue sur Fréquence Radio Paris Pluriel 106.3. Ce soir, mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par une équipe intermondialiste de l'association Attaque et des journalistes du journal Le Piaf. Nous recevons ce soir Frédéric Vial, économiste et membre du conseil scientifique d'Attaque, qui va nous parler des traités transatlantiques qui vont animer le débat, on l'espère, un jour dans les médias, car c'est des choses qui nous effraient beaucoup. Mais nous attaquons par l'actualité. Tout d'abord avec Boris.
Alors, on peut le dire et se permettre ce mauvais jeu de mots, ça sent un peu le sapin pour les taxes sur les transactions financières en Europe. Le 7 novembre se tenait à Bruxelles une réunion des ministres des Finances des États membres de l'UE. L'un des sujets abordés était la taxation des transactions financières censées lutter contre la spéculation. Taxation de grande ampleur, puisqu'elle serait de l'ordre de 0,01%, voire 0,05%. Ce devait être LE sommet européen durant lequel un accord allait être trouvé. Mais c'est encore une fois raté. Aucun accord n'a vu le jour. La frilosité était de mise. Le ministre italien Pier Carlo Padoan, qui présidait la réunion, a salué des progrès dans ce dossier. Michel Sapin et son homologue allemand Wolfgang Schäuble ont tous deux rappelé leur volonté de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année, afin de pouvoir appliquer cette taxe à partir du 1er janvier 2016. Michel Sapin était envoyé à Bruxelles pour parler au nom de François Hollande, qui disait en 2012, lors de la campagne pour les présidentielles, « Je n'ai qu'un adversaire dans cette campagne, c'est la finance ». La finance folle, la finance qui a soumis l'économie, qui l'a dominée et qui aujourd'hui entrave les peuples. Le 3 novembre dernier, quelques jours seulement avant cette rencontre européenne, notre bon ministre des Finances et des Comptes publics s'est fendu d'une tribune dans les Échos. Pour les incultes des bourses et du pognon comme moi, il s'agit d'un quotidien français d'information économique et financière fondé en 1908, propriété aujourd'hui du groupe LVMH, d'orientation libérale. C'est l'unique publication économique en France depuis que son concurrent, La Tribune, a périclité en 2012. Que nous dit Michel dans cette tribune intitulée « Taxes sur les transactions financières, cessons de tergiverser ». Je cite « C'est une occasion historique de faire avancer l'harmonisation fiscale en Europe et de lutter contre la spéculation ». Puis quelques lignes plus loin, « Depuis mon arrivée, je me suis fixé un objectif. Mettre enfin en œuvre une taxe qui préserve et protège la bonne finance. » Il est temps de passer à l'acte. En gros, il faut taxer, mais sans trop déranger le monde de la finance. Dès le lendemain de cette sortie, des associations comme Attaque, Oxfam, AIDS ou la Coordination Sud ont répondu, dans le même journal, par une lettre ouverte dénonçant la volonté de Michel Sapin de préserver la chèvre et le chou. Notre ministre, cette fois-ci, n'a eu ni l'un ni l'autre. Il a juste, malgré sa bonne volonté, fait chou blanc.
Et oui, c'est un traité, celui-là, entre le François Hollande et nous, qui n'a pas été respecté. Hein ? On parlera de traités qui vont peut-être être respectés et qui vont, eux, beaucoup plus gréver l'économie française. Mais nous continuons avec l'actualité et Alex.
Alors c'est une actualité un petit peu vieille hein, qui date du mois dernier, mais en accord avec mes camarades gauchistes ici présents, j'ai décidé de rendre hommage à...
Gauchiste, mais n'importe quoi.
Ouais, droitier ? Ok.
D'accord, on accepte.
J'ai décidé de rendre hommage à Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014. Alors pourquoi cet hommage à ce digne représentant de l'orthodoxie économique, alors que tous les libéraux de France, qui pourtant pour la plupart n'ont pas lu une traître ligne des travaux du grand homme, l'ont déjà fait en résumant sa pensée par un classique « Le marché, c'est bien ». Eh bien, justement, parce que le discours de Jean Tirole, c'est un peu plus compliqué que ça. Le Tirole, c'est une langue franchement ardue, difficilement compréhensible pour les néophytes en économie, comme moi, et tout hérissé d'équations mathématiques ésotériques. Du coup, ça a suscité mon intérêt. Comment ça marche? Pourquoi les banquiers de Stockholm? Parce que le prix Nobel d'économie, c'est en fait le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Pourquoi donc ces banquiers ont trouvé ça génial? Au départ, Jean Tirole est un polytechnicien, promotion 73. Et après avoir fait une thèse en mathématiques de la décision, Le jeune Tyrol a décidé de faire une thèse d'économie aux États-Unis, vu que, visiblement, polytechnique et une thèse de maths, c'était un peu léger. Et c'est là que Tyrol a trouvé sa véritable vocation, construire des modèles mathématiques permettant de décrire des marchés imparfaits. Alors, de quoi on parle, là? À la fin du XIXe siècle, plusieurs économistes ont modélisé le marché parfait, celui qui permet théoriquement la meilleure allocation de ressources. Sauf qu'en pratique, les marchés réels ne sont pas parfaits. Dans la plupart des cas, certains agents économiques possèdent ce qu'on appelle un pouvoir de marché. Ils sont dans une situation qui leur permet d'imposer un prix qui les avantage ou de refiler des produits ou des services de mauvaise qualité. Du coup, deux problèmes se sont posés aux économistes. Comment expliquer le fonctionnement de ces marchés? Et surtout, comment on les régule? Et alors là, faut faire attention parce que le mot régulation, au coup, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Pour les économistes orthodoxes, une bonne régulation, c'est pas une bête réglementation, style code du travail, visant à empêcher qu'on fasse n'importe quoi ou à donner des droits aux pauvres. Non, une bonne régulation, c'est une réglementation qui permet de rapprocher le marché imparfait du marché parfait. Par exemple, la concurrence libre et non faussée imposée par l'Europe est une bonne régulation. Elle permet de mettre en place des mécanismes de marché dans des secteurs comme les chemins de fer qui, jusqu'ici, étaient gérés à la mode soviétique. Par contre, le fait de demander aux employeurs de justifier les licenciements est une mauvaise régulation. Cela empêche les entreprises de s'adapter vite aux fluctuations du marché. Le génie de Tyrol est précisément là, d'avoir trouvé des modes de régulation qui s'adaptent à chaque situation particulière en utilisant la théorie des jeux. La théorie des jeux permet de décrire ce qu'un joueur rationnel ferait s'il est placé dans une situation d'incertitude. En utilisant cet outil mathématique, on peut imaginer des règles qui vont amener les agents économiques à adopter des comportements qui vont permettre au marché d'être plus efficace. Tyrol a fait quelques propositions de régulation aux politiques ces dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu la main heureuse, comme le rappelle très bien Jean Gadret dans Alter Echo. En 2003, il propose avec Olivier Blanchard de réformer le marché du travail français en supprimant les CDD et les CDI pour les remplacer par un contrat unique plus souple. Dans ce cadre, les entreprises auraient la possibilité de licencier plus facilement leurs salariés, mais seraient obligées de payer une taxe à chaque fois. Les salariés seraient, eux, incités à ne pas changer de travail, car leurs droits seraient fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Comme on pouvait s'y attendre, ce rapport a été très vite enterré. Les salariés auraient été largement perdants, et cela aurait creusé par ailleurs les écarts entre les entreprises les plus riches pouvant se permettre de virer à tour de bras, et les autres non. Bref, ni les syndicats, ni le MEDEF n'auraient pu accepter un projet pareil. En 2008, suite à la crise financière, Jean Tyrol s'est fendu d'une note sur la régulation et de la finance internationale. Cette note, intitulée sobrement « Les leçons d'une crise », pourrait se résumer par quelque chose comme « Surtout ne touchons pas à ce qui fonctionne finalement pas trop mal ». Il réfute par exemple l'idée que la séparation entre banque d'affaires et banque de détail pourrait être un frein aux crises. Alors même que l'une des raisons de l'ampleur de la crise que nous vivons actuellement est liée au fait que les banques généralistes étaient toutes impliquées dans des activités spéculatives risquées. L'absence de séparation entre les activités spéculatives et les opérations de crédit ordinaire a entraîné, une fois que la crise a éclaté, un risque systémique, c'est-à-dire un risque d'effondrement de l'ensemble du secteur bancaire. Avec une régulation à la Tyrol, on prend le risque d'une nouvelle crise financière encore plus importante que celle qu'on vient de connaître. Enfin, en 2009, il s'est intéressé à l'écologie. Il est favorable à une taxation écologique, type taxe carbone, mais aussi et surtout à une extension du marché des droits à polluer. Le mois dernier, on a eu l'occasion... avec notre invité, de parler de cette œuvre d'art, aussi belle théoriquement, œuvre d'art je le cite, aussi belle théoriquement qu'inutile pratiquement. Il y a en Europe un marché carbone qui n'a jamais réellement fonctionné. Le prix de la tonne de carbone a baissé pendant des années jusqu'à des niveaux ridiculement bas. En fait, grâce à l'action des lobbies, le niveau de pollution autorisé a été fixé à un niveau trop élevé. Du coup, les entreprises ont essayé de vendre des droits pollués, qui leur servaient à rien, à d'autres entreprises qui n'en avaient pas besoin. Assez logiquement, les cours se sont effondrés. Bon, vous me direz, c'est pas la faute de Tyrol. C'est vrai, mais c'est quand même curieux de continuer à promouvoir ce mécanisme qui a largement prouvé son inefficacité, sous le prétexte qu'en théorie, c'est le meilleur système pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre sans diminuer la compétitivité des entreprises. Bref, Tyrol, c'est l'économiste de notre époque. C'est un expert de la régulation, le type qui va conseiller les États quand il s'agit de privatiser, d'accroître la concurrence ou de trouver des réglementations qui vont pas faire peur aux hommes d'affaires. Comme on dirait aux USA, il est business friendly.
Et il est prix Nobel d'économie, bien entendu. Alors nous allons complètement changer de sujet, mais en restant dans une actualité, mais de l'autre côté des Pyrénées, en interviewant Benjamin, qui nous appelle du sud, pas tout à fait d'Espagne, mais un peu plus au sud que Paris. Benjamin, tu nous entends ?
Je vous entends parfaitement, oui. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors tu vas nous parler de l'actualité politique en Espagne, et précisément du mouvement politique Podemos.
Oui, alors, il y a eu une sorte de tremblement de terre là au fin octobre en Espagne, avec un sondage pour les élections générales qui auront lieu l'année prochaine en Espagne, qui donnait ce tout nouveau parti politique Podemos, qui était au coude à coude avec les deux grands partis politiques espagnols. Et Podemos, c'est un peu la grande inconnue, puisque c'est un parti qui est né tout simplement au début de l'année 2014. Donc c'est tout récent, et donc c'est vraiment un essor extraordinaire pour ce parti.
Alors là, tu parles des élections futures, mais même je crois qu'aux élections européennes dernières, ils ont déjà fait un beau score.
Oui, déjà ils ont obtenu 8% des votes, c'est-à-dire 5... Il y a eu 5 personnes qui ont été élues donc au Parlement européen, qui siègent maintenant, issues de Podemos. Et bon, ce qui est intéressant surtout, c'est la façon dont ce mouvement, puisqu'au début il se définissait simplement comme un mouvement politique, et c'est un petit peu l'ascension rêvée, quoi, ce que tout le monde aimerait faire avec les mouvements sociaux qu'on peut connaître, les manifestations qui dans la rue, qui soudainement se trouve avec une voix au chapitre au niveau politique.
Alors donc, si Podemos est arrivé, c'est dans un cadre politique quand même très particulier et même économique, en 2011 à peu près.
Oui, c'est la grande crise en Espagne. Je ne sais pas si on peut imaginer ici en France vraiment ce qu'ont vécu les Espagnols depuis 2008, avec des tailles dans les budgets considérables, des baisses de salaire, des fonctionnaires qui ont perdu entre 5 et 10% de salaire d'un mois sur l'autre. Des coupes dans tous les secteurs, de toute façon, éducation, santé, tout ça qui a été mené par le PS qui était au pouvoir à ce moment-là. Et puis, dans le même temps, parallèlement, j'ai envie de dire, des affaires de corruption quotidiennes, vraiment quotidiennes. C'est très, très impressionnant de regarder les journaux d'information espagnols, parce que les 10 premières minutes sont systématiquement occupées par des affaires de corruption, soit nouvelles, soit la suite, où on découvre que tout le monde est mouillé, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est pas seulement d'ailleurs au niveau politique, hein, c'est aussi des célébrités locales, artistiques, qui blanchissent de l'argent. Enfin, ça touche tous les secteurs de la société. Mais évidemment, c'est d'autant plus choquant politiquement, puisque il y a eu beaucoup de tailles dans les budgets, comme je l'ai dit. Et évidemment, quand on voit que les hommes politiques se sont enrichis grâce à l'argent public, c'est d'autant plus choquant. Et ça a créé vraiment un mouvement, le mouvement qu'on a connu au printemps 2011, où à partir d'une manifestation à Madrid, il y a des gens qui se sont regroupés, qui ont commencé à occuper la place principale de Madrid. Et tout ça a fait tache d'encre dans toute l'Espagne, et avec un phénomène très très intéressant d'assemblées populaires qui sont nées vraiment un petit peu partout, pas seulement dans les grandes villes d'ailleurs, et vraiment où les gens ont pu s'exprimer, et ça, il y a quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Mais c'est vrai que au fil des mois, évidemment, tout ça s'est un petit peu dilué. Et jusqu'à donc au début de cette année, là, début 2014, avec donc cette formation politique, maintenant Podemos, qui est issu de professeurs d'université, des politologues, qui se sont dit c'est pas possible, ce mouvement, c'était tellement puissant ce qu'on a vécu courant 2011, on doit pouvoir en faire quelque chose sur le plan politique. Et donc ils se sont assemblés et et ça a pris très vite. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que dit un des fondateurs. C'est que ce parti est né à Madrid, là dans le quartier de Lavapiés, qui est un quartier constamment en ébullition et avec beaucoup d'associations semi-apolitiques, disons. Et lui disait que la première fois qu'ils sont sortis de Madrid avec Podemos, ils sont allés à Saragosse pour faire une grande réunion publique. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui a demandé de quel Podemos il venait. Et donc lui était très surpris, puisqu'il venait juste de créer Podemos à Madrid. Et donc il dit simplement qu'il vient de Madrid. Et l'autre personne lui répond, moi je viens de Podemos Calatayud. Donc c'est-à-dire que le mouvement, en une semaine, avait déjà déjà pris dans toute l'Espagne.
Donc si ce n'est pas exactement la continuité du mouvement des indignés de 2011, il en a finalement le même aspect aujourd'hui.
Oui, ça ressemble beaucoup. Et après, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est vraiment la stratégie des personnes qui ont créé le mouvement, parce que même si c'est conçu comme un parti qui est base d'assemblée populaire comme ça, donc il y a toujours une ambiguïté. Est-ce qu'il y a des gens qui dirigent ça, ou est-ce que c'est la méthode participative comme ils disent? Mais je ne sais plus exactement où je voulais en venir.
Non, donc c'est un processus tout à fait nouveau d'un mouvement politique, d'être ouvert à tous, ouvert à la discussion, alors qu'on avait avant, et surtout en Espagne, une caste politique en place et qui verrouillait tout le système. Là, tu as beaucoup critiqué les hommes politiques, mais est-ce que c'est vraiment les deux bords politiques qui étaient au même point de corruption ?
Oui. Bon, on aurait tendance à dire la droite est un petit peu plus touchée, mais non, vraiment, il y a eu des affaires partout, et même en Andalousie, on sait que c'est une région qui est particulièrement touchée par le chômage. Et là, il y a eu un scandale récemment sur la répartition des aides au chômage, dont une partie a été récupérée par le PS qui gouvernait la région, et qui sont partagées avec un syndicat, UGT. Donc ça touche vraiment tous les secteurs, hein. Je crois qu'il n'y a pas de... Et d'ailleurs, ce sentiment est très répandu dans la société espagnole, le fameux tous pourris. Et c'est ce qui permet certainement à ce nouveau parti de se faire une place, puisque ceux qui ont créé le mouvement Podemos ne sont pas du tout issus du monde politique. Parce qu'en Espagne, un petit peu comme en France d'ailleurs, il y a eu des dissidences, que ce soit au sein du PS ou au sein de la droite. Mais ce sont des personnes qui ont créé un nouveau parti, mais qui reste très minoritaire, qui reste à la marge. Et là, soudainement, avec des personnes qui viennent comme ça de la société civile, soudainement, là, le mouvement prend des proportions extraordinaires.
Et alors, quel est son programme ? Ils ont des idées précises ?
Alors, les idées précises, pas vraiment. Disons qu'il y a des grands axes. Il y a des grands axes de réflexion, bon, qui sont aussi en rapport avec... avec ce qu'a vécu l'Espagne. Donc par exemple, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été expulsées de leur logement suite à la crise, puisqu'ils pouvaient plus rembourser leurs emprunts. Donc il y a par exemple l'idée qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à la rue. Voilà, ça fait partie de... Mais c'est comme ça des idées fortes, si on peut dire, par rapport aussi à la dette, avec... la volonté affichée de ne pas rembourser la dette qui serait illégitime, mais bon, sans vraiment nous dire quelle est la dette légitime, quelle est la dette illégitime. C'est de demander plus de moyens pour l'éducation, pour la santé, et lutter évidemment contre la corruption. Ça, c'est un axe fondamental, puisque pour reprendre encore des enquêtes d'opinion, on voit que la préoccupation principale des Espagnols, c'est le chômage, et juste après, c'est la corruption. Donc c'est évidemment un axe très très fort de leur programme, la lutte contre la corruption et donc l'accès au logement qui serait facilité. Mais tout ça n'est vraiment vraiment pas précis, et la critique qui est faite souvent à Podemos, c'est justement de dire que volontairement ils ne sont pas précis, de façon à pouvoir rassembler un maximum de personnes simplement autour de belles idées, sans qu'elles soient véritablement concrètes.
Alors, c'est un mouvement qu'on pourrait peut-être tabler de populiste de gauche, voire d'extrême-gauche, mais avoir peu d'idées précises et des grands diktats d'idées, c'est quand même pas forcément un esprit de consensus, ça fait très populiste, ça, non ?
Oui, c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est évidemment ce dont ils sont taxés par les médias traditionnels. Et c'est vrai que pour avoir vu des interviews du principal représentant du mouvement, pour avoir lu beaucoup d'articles et donc leur programme qui n'en est pas un, c'est quand même ce sentiment que ça donne. On nous balance comme ça de belles idées, mais dans la concrétisation, c'est extrêmement flou, volontairement. Je pense notamment à la au référendum qui a eu lieu en Catalogne ce week-end, qui était un événement très important évidemment en Espagne, ce référendum organisé illégalement puisque le pouvoir central ne le reconnaissait pas comme légitime, par exemple Podemos n'a pas pris position. Parlons le moins possible, et puis pour éviter comme ça d'avoir des gens qui ne se retrouvent pas dans nos positions. Donc c'est simplement quelques belles idées qui sont balancées comme ça. Et puis voilà, avec cette idée véritablement de prendre le pouvoir, c'est quelque chose qui est annoncé très clairement. On veut prendre le pouvoir pour mettre tout le monde dehors. C'est visiblement leur principale préoccupation. Et c'est pareil, c'est une forme de populisme aussi qui amène quand même à s'interroger sur ce qu'ils feraient véritablement s'ils arrivaient au pouvoir.
Alors c'est quand même une vague d'expérience extraordinaire, si on veut conclure, en une phrase, c'est de dire, quelle que soit l'origine de ce parti, c'est un renouveau et c'est un modèle peut-être à suivre pour d'autres mouvements.
Oui, et puis c'est aussi l'occasion quand même pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques traditionnels, c'est une occasion de s'exprimer. Donc c'est toujours une bonne chose, un magma, une ébullition d'idées comme ça qui surgissent, et bon, c'est toujours bien, ça permet à des personnes de s'impliquer politiquement, des personnes qui n'étaient pas forcément concernées en premier lieu, et non, c'est toujours très intéressant. Maintenant il faut voir comment ça va évoluer, est-ce qu'ils vont réussir à rendre leurs propositions un petit peu plus concrètes, peut-être un peu plus réalistes aussi. Voilà, c'est vraiment c'est l'organisation à suivre. La dernière information du jour, c'est que demain il y a une grande assemblée générale de Podemos pour rendre officiel les résultats pour l'élection d'un porte-parole, d'un représentant, en tout cas qui devrait être Pablo Iglesias, et une des personnes qui va assister à Madrid à cette grande réunion, c'est Alexis, j'ai perdu son nom, le grec, Alexis Tsipras, voilà. Qui sera présent dans cette assemblée de Podemos. Donc voilà, ça prend tournure, et puis ça prend une tournure internationale. Et évidemment, on va suivre ça avec attention, parce que c'est quand même le genre de mouvement qu'on aimerait voir se créer aussi en France.
Eh ben, merci Binge pour cette chronique du Sud qui nous a parlé d'Espagne. Et pour rester en Espagne, nous allons écouter Agaropar de Pedro Ibáñez.
De Rafael Alberti, ainsi cette chanson qui doit devenir importante pour nous. Agaropar, agaropar, hasta enterrarlos en el mar.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par une équipe altermondialiste de l'association Attaque et des journalistes du journal Le Piaf. Et nous recevons ce soir Frédéric Vial, membre de la Commission Europe d'Attaque, qui va être interviewé par Gaël.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Alors en ce moment, il y a un certain nombre d'accords de libre-échange dans le monde entier qui ont été signés, qui vont être signés, qui sont en cours de signature. Le dernier d'entre eux, c'est l'accord entre l'Union européenne et le Canada qui a été signé le 25 septembre. Pardon.
Septembre, oui, c'est ça.
Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cet accord de libre-échange ?
C'est comme ce type d'accord actuellement, et on va parler tout à l'heure de l'accord Union européenne-États-Unis. L'accord Union européenne-Canada est un accord qui vise à libéraliser l'ensemble des activités qui touche au commerce, c'est-à-dire toutes les activités humaines. Et libéraliser, ça veut dire mettre la concurrence au cœur de ces de toutes les activités, de sorte que les principes de l'Organisation mondiale du commerce, ou qui ont été définis par l'Organisation mondiale du commerce, trouvent à s'appliquer d'abord entre l'Union européenne et le Canada, puis entre l'Union européenne et les États-Unis, et enfin plus largement dans le cadre d'un autre accord qui existe et dont on parlera aussi peut-être, qui est l'accord sur le commerce des services. Ces accords ont une particularité, en plus de se livrer à, de permettre une libéralisation considérable, la plus grande vague de libéralisation qui aura pu être faite en pratique après toutes celles qui ont été faites par l'Union européenne ces 30 dernières années. Ils ont ces particularités, ces accords, de prévoir deux mécanismes qui sont des mécanismes tout à fait attentatoires aux principes fondamentaux de la démocratie, le mécanisme de règlement des différents investisseurs États et le mécanisme de coopération réglementaire. Alors, dans le mécanisme de règlement des différents investisseurs États, c'est la possibilité pour un investisseur, c'est-à-dire une entreprise, de porter plainte devant un arbitre international, pas devant un juge, devant un arbitre international.
C'est-à-dire une justice privée.
Une justice privée, exactement. Au motif qu'une décision publique, soit une décision d'État ou d'une collectivité locale, irait à l'encontre des bénéfices escomptés de l'entreprise.
C'est-à-dire que, en fait, ça va beaucoup plus loin que le libre-échange. Il ne s'agit pas seulement de baisser les tarifs douaniers sur les échanges agricoles ou industriels, mais ça définit des règles sur la politique
voilà,
des États.
Il s'agit de baisser les barrières derrière les barrières, c'est-à-dire de baisser les barrières intérieures au commerce derrière les barrières tarifaires. Aujourd'hui, les barrières tarifaires, les droits de douane, sont déjà très largement baissés. Il y a encore quelques pics tarifaires dans le domaine agricole, mais sinon, dans l'ensemble, ils sont très faibles. Non, véritablement, ces accords portent sur les réglementations intérieures, portent le principe de la reconnaissance mutuelle des normes, porte en fait l'idée que maintenant il s'agit de faire en sorte que les réglementations internes des États, que ce soit de notre côté ou de l'autre côté de l'Atlantique, soient harmonisées et harmonisées vers le bas, c'est-à-dire vers la réglementation la moins coûteuse possible pour les entreprises, la moins contraignante pour les entreprises, probablement pas la plus protectrice pour les populations, mais ça... Ce sont des effets collatéraux que veulent bien ignorer les négociateurs.
Alors, pourquoi on a très peu entendu parler des négociations, de cet accord ?
Parce que c'est quelque chose qui est en même temps énorme. C'est-à-dire que là, quand même, ce dont il est question, c'est de revenir sur l'ensemble des réglementations qui existent, dont on peut dire qu'elles sont... toujours moins protectrices ou qu'elles sont pas satisfaisantes ou pas assez satisfaisantes, mais elles existent. Et là, il s'agit de les passer à la moulinette du principe de la concurrence, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et là, c'est quelque chose qui est tellement considérable que les promoteurs de l'accord, et d'ailleurs François Hollande l'a dit lui-même en parlant de l'accord Union européenne-États-Unis par ailleurs, ont l'intention d'aller vite de sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de mise en place d'une opposition de la population. Comme le dit François Hollande, il ne faut pas que les gens aient peur, et pour cela, il faut aller vite.
Alors effectivement, il n'y a pas eu énormément d'opposition, seulement il y a eu un certain nombre de mouvements mobilisés, à commencer par ATTAC, et puis oui. au Canada, il y a eu aussi beaucoup de mouvements, notamment syndicaux ou écologistes mobilisés. Est-ce qu'on peut penser que cette mobilisation a pu avoir un effet sur le contenu de l'accord ?
Sur le contenu de l'accord Union européenne-Canada, certainement pas. Sur Union européenne-États-Unis, oui. Et donc sur Union européenne-Canada, je m'explique. C'est-à-dire que, en fait, la cristallisation des mobilisations aujourd'hui se fait autour de l'accord Union européenne-États-Unis. Or, comme l'accord Union européenne-Canada arrive avant et qu'il est comme, on va dire, le poisson pilote avant que le gros requin arrive, c'est la petite chose avant la grosse bête, eh bien, ça permettrait d'avoir aussi l'accord Union européenne-Canada, puisque maintenant, dans nos mobilisations, on englobe les deux. Et il y a précisément sur ces accords-là une mobilisation qu'on n'a pas vue depuis au moins l'OMC. C'est-à-dire que là, la mobilisation... Elle est importante, non pas seulement en France, où elle démarre, et elle démarre à un niveau plutôt correct, mais dans le reste de l'Union européenne, en Allemagne par exemple, il y a une pétition qui en quelques semaines a ramassé 700 000 signatures, enfin véritablement quelque chose qu'on n'imaginait pas. Elle est importante, cette mobilisation au Canada, elle est importante aux États-Unis aussi, dans le cadre Union européenne-États-Unis, Bref, cette mobilisation-là, elle commence à cristalliser de telle sorte que, d'ailleurs, la Commission elle-même s'est crue obligée d'organiser une consultation publique pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du mécanisme de règlement des différents investisseurs États. Et cette consultation est telle que et va dans un sens qui est tellement critique par rapport à ces mécanismes proposés que la Commission a refusé que soit organisée une initiative citoyenne européenne sur la question. C'est pas grave, on l'a fait quand même, hein, on ne va pas lui demander son avis. Mais donc c'est ça, les 700 000 signatures dont je vous ai parlé, que ça continue de grossir. Mais la Commission commence à prendre peur, et les gouvernements aussi. Là, récemment, le gouvernement français a essayé ou essaye de refonder le comité de suivi stratégique. Il se répand partout dans les médias pour dire « Attaque va faire partie de ce comité de suivi stratégique. Vous voyez, on fait les choses bien, on est transparent, on est démocrate. » Pour essayer de parer le coup.
Et donc, en fait, du fait que ce sont les États-Unis, c'est plus facile de se mobiliser que face au Canada.
Ah, faut croire que oui, hein, parce que visiblement les États-Unis font beaucoup plus peur. C'est un peu idiot entre nous, hein, je le pense vraiment, parce que le Canada a une image de gros nounours gentils où tout se passe bien, et en plus c'est des gens sympas les Canadiens. Il y en a certains qui parlent un français qui en plus avec un accent rigolo. Enfin, vraiment, on les aime. Hein, c'est pas vrai du tout. Hein. Le Canada, c'est un havre de libéralisme. Ça salope l'environnement tant que ça peut, mais ça a une très bonne image. Donc, ça fait des années qu'on rame pour mobiliser sur le truc. Rien. Là maintenant, arrive Union européenne, États-Unis, ça marche. Donc, évidemment, on amplifie la chose.
Et le contenu de l'accord Europe-États-Unis serait à peu près le même que celui de l'accord Europe-Canada ?
Oui, on est exactement les mêmes choses. Le même principe, libéralisation extrêmement forte, impossibilité de revenir sur ce qui aura été libéralisé, mécanisme de règlement des différents investisseurs États, le mécanisme aussi, donc j'évoquais tout à l'heure, de coopération réglementaire, c'est-à-dire le fait que dans l'avenir, il y aura un comité Théodule composé de technocrates des deux côtés de l'Atlantique qui dira que, ah bah oui, cette réglementation, il faudrait la diminuer, il faudrait l'amoindrir, il faudrait l'assouplir, parce qu'elle est trop coûteuse pour les entreprises. Ce sont des termes employés, hein, je veux dire, je les invente pas, je les ai lus dans les accords. Voilà, vous avez donc cette chose-là, qui ces accords-là permettent en fait de donner un droit de veto aux entreprises avant même que la discussion parlementaire soit entamée. C'est-à-dire que à travers ce comité de coopération réglementaire, les lobbies sont invités à s'exprimer, à donner leurs commentaires et à dire « oui, ça, je veux pas trop de cette réglementation parce que ça va me gêner dans le futur et je vais perdre en compétitivité ». Alors déjà qu'on nous bassine tous les jours, matin, midi et soir, sur la compétitivité, avec tout ce que ça a comme conséquence d'ailleurs pour les chômeurs, les précaires, etc., dont le nombre ne cesse d'exploser. Mais alors là, ce sera même en amont des discussions parlementaires, quoi, carrément.
D'accord, donc il y a un certain nombre de constantes à travers les accords, et on va le voir d'ailleurs avec les deux autres accords dont on va parler après la petite pause musicale.
Petite pause musicale de circonstance, parce que ce traité, finalement, si on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on en fait ? Jean-Yann.
Si tu n'en veux pas, si tu n'en veux pas, si tu n'en veux pas. Si tu n'en veux pas.
Réflexion faite, j'en veux pas.
Eh ben, si tu n'en veux pas, c'est la dernière fois que je t'emmène chez le fourreur.
Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée cette semaine par l'équipe altermondialiste de l'association Attaque et des journalistes du journal Le Piaf. Et nous continuons l'interview de Frédéric Vial par Gaël.
Voilà, nous avons parlé des joyeusetés de deux accords de libre-échange actuels entre l'Union européenne et le Canada d'une part, entre l'Union européenne et les États-Unis d'autre part. Il y en a d'autres, plein d'autres. On pourrait parler, par exemple, de l'accord sur le commerce des services. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est un. En fait, ça vient du fait que l'Organisation mondiale du commerce, qui avait pour mandat de libéraliser l'ensemble du commerce international dans le monde entier, en dehors de quelques secteurs qui n'en font pas partie, l'Organisation mondiale du commerce échoue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parvenue à remplir son mandat, le mandat qui lui était fixé. Bon, faut dire que c'était un mandat totalement délirant, hein, parce que parvenir à libéraliser l'ensemble des activités humaines, quand même, c'était mission impossible, et d'ailleurs l'OMC s'est lourdement embourbé. Alors, les grandes puissances se sont dit, aux alentours de 2000, tiens, mais et si on avait recours à des accords entre gens de meilleure compagnie que à l'OMC, où on trouve des pays pauvres qui ont deux inconvénients, d'abord d'être pauvres, et ensuite de se mettre ensemble pour dire qu'ils veulent pas d'un certain nombre de règles. Ils ont résisté. Alors, d'un côté, il y a eu des accords de libre-échange Nord-Nord, comme ceux Union Européenne-Canada, machin, et Union Européenne-États-Unis. Et puis, il y a aussi, là, qui regroupe une cinquantaine de pays, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'OCDE, et puis un certain nombre de pays asiatiques, comme le Pakistan, par exemple, quelques autres comme ça, qui sont un peu moins développés, on va le dire. Sur seulement les services. Alors, ça reprend exactement les mêmes principes de libéralisation des services contenus dans l'OMC, dans l'accord général du commerce des services. Mais en plus, on ajoute un chapitre très fort qu'on a eu l'occasion de lire sur les services financiers, qui ferait que les très rares avancées de réglementation qui ont été faites, par exemple, aux États-Unis sur les services financiers, on en parlait tout à l'heure à propos de ce qu'a dit écrit Tirole, ceux-là devront être supprimés également. Et puis aussi une clause qu'on appelle de non-retour, c'est-à-dire l'impossibilité de revenir sur une gestion publique une fois que le service aura été libéralisé. Voilà, c'est-à-dire que voilà, on ne peut plus revenir sur un autre type de gestion. Si vous avez libéralisé l'eau, si vous avez libéralisé la santé, si vous avez libéralisé je sais pas quoi, ce qui a vocation à être fait, hein, puisque par définition tous les services sont sur la table dans les négociations, on ne pourra pas revenir dessus.
Mais donc il ne s'agit pas seulement de libre échange de services, c'est-à-dire de la possibilité d'échanger des services de coiffeur ou de garde d'enfants à travers les frontières, mais ça touche aussi ce qu'on considère comme des services publics, dont des choses qui normalement ne devraient pas relever du commerce, comme l'éducation.
Mais c'est vous qui dites que ça ne relève pas du commerce, parce que c'est pas du tout la définition qui est donnée dans les accords. Les accords disent simplement que les services qui ne sont pas concernés sont les services qui exercent dans le cadre du pouvoir gouvernemental et qui ne donnent lieu ni à un prix et ni à concurrence. Si vous faites le tour de ce qui ne donne lieu ni à un prix ni à une concurrence, vous avez trois types de services: armée, police, justice, émission de monnaie aussi. Voilà, ce qui fait quatre en tout. Le reste, tous les autres services, y compris l'éducation, y compris etc., ça peut donner lieu à concurrence. Et s'il le faut, effectivement, on met en place des régulations de type Tirole qui consistent à organiser le marché. C'est ce qu'on a fait dans les libéralisations des grands services en réseau en Europe ces 25 dernières années. Et puis, de toute façon, il y a aussi un prix. Le simple fait, par exemple, que lorsque vous êtes malade, vous payez un ticket modérateur de 50 centimes sur une boîte de médicaments, quelle que soit la boîte, c'est un prix. Et donc, à partir de là, vous avez un secteur qui ne relève plus dans la définition des accords de ce que les négociateurs considèrent comme étant devant relever des services publics.
Donc c'est une définition. Et sur la table des négociations.
Tout est sur la table des négociations par définition.
Et moi, j'ai cru entendre quelques-uns de nos hommes politiques nous rassurer en disant qu'ils allaient mettre à part certains.
Moi aussi, je les ai entendus. J'ai un souvenir très précis, d'ailleurs. C'était le 13 juin, Madame la ministre Fleur Pellerin avait convoqué le banc et l'arrière-banc des ONG, de la société civile, comme on dit maintenant, avec tout un tas d'organisations patronales. Il y avait là des gens comme le MEDEF, comme les chimiquiers, etc. C'était un raout très intéressant, dans lequel elle nous avait dit qu'il y avait des lignes rouges. Elle avait dressé des lignes rouges partout. Alors vraiment, ni l'environnement, ni le social, ni l'emploi, ni les services publics. On se demandait pourquoi l'accord avait été fait, dites donc. Et puis, trois jours après, on a une fuite, ce qui est le document de positionnement de l'Union européenne. Aucune des lignes rouges telles que ça avait été décrite par la ministre ne sont respectées dans ce document fuité. C'est-à-dire que tout est absolument explosé. Et par exemple, les services, les trois niveaux de services d'éducation sont dans l'accord Union européenne-États-Unis, par exemple. De la même manière qu'on trouvera la santé. Vous avez parlé tout à l'heure des gardes d'enfants, etc., en rigolant. Mais c'est dedans. Eh oui, vous avez une liste à la Prévert comme ça. Ça, c'est dans l'accord Union européenne-Canada. Vous avez une liste à la Prévert des métiers qui sont concernés. J'avais envie, d'un moment donné, en lisant ce truc-là, j'avais envie de me dire, mais ils ont qu'à mettre les métiers qui ne sont pas concernés. On économisera du papier, quoi. Enfin, vraiment.
Alors, tu rappelais que les négociations de l'OMC avaient échoué dans les années 2000, notamment les négociations sur l'ancien accord sur les services. Quel est le calendrier prévu pour ce nouvel accord sur les services et quand est-ce qu'on pourrait imaginer que ça entrerait en œuvre si la mobilisation échoue contre ça?
Jamais, parce qu'on va avoir la peau de ces trucs-là. C'est pas rhétorique. Le calendrier officiel, c'est pour Union européenne-Canada, c'est au mois de, on va dire, juin. Il va y avoir le Conseil européen qui va se réunir au mois de septembre, une ratification au Parlement européen, ce qui nous laisse un an. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais ça nous laisse le temps d'y arriver. Union européenne, États-Unis, on a officiellement entre 2015-2016. En réalité, ils n'y arriveront pas d'ici là, mais en admettant que ce soit encore vrai, il nous reste 2 ans. Voire 3 le temps de faire la procédure de ratification. Sur l'accord sur le commerce des services, il n'y a pas d'échéance qui aurait été fixée. En fait, pour nous, ça veut dire ce calendrier qu'on doit avoir la peau de ces accords les uns derrière les autres de manière méthodique, c'est-à-dire commencer par Union européenne-Canada pour avoir une chance d'avoir Union européenne-États-Unis. Et pour planter l'accord sur le commerce des services. Donc voilà, c'est à peu près nos objectifs, les uns derrière les autres, pour arriver à faire en sorte que ça ne rentre pas en application. Sinon, si on échoue sur tout, on peut avoir un début d'application d'ici, on va dire, entre 5 et 10 ans.
Est-ce qu'on peut compter aussi sur les États négociateurs pour s'entre-déchirer et ne pas tomber sur un accord?
Oui, il y a des intérêts contradictoires. Et notamment, il y a les intérêts contradictoires de l'Union européenne et des États-Unis. L'Union européenne veut, par exemple, elle le dit, intérêt offensif, les marchés publics locaux des États-Unis. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le Buy American Act, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire une loi qui autorise les collectivités territoriales à avoir recours à des fournisseurs locaux. Et ça, c'est un sujet politique qui revient dans toutes les campagnes électorales aux États-Unis et c'est politiquement extrêmement difficile pour le gouvernement, quel qu'il soit des États-Unis, de revenir sur le Buy American Act. On peut compter sur ça aussi, d'autant que les entreprises américaines n'ont pas du tout l'intention de perdre ce que ça représente, les marchés publics locaux. Et puis, il y a aussi les contradictions internes, par exemple, des grosses entreprises, je pense notamment aux chimiquiers, qui ont un intérêt objectif à ne pas vouloir de cet accord, de ces accords tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que ils se sont pliés déjà à un certain nombre de réglementations environnementales, comme par exemple la directive REACH, et ils n'ont pas envie ensuite que les États-Unis, les entreprises des États-Unis, les concurrencent sur leur secteur, alors qu'elles ne sont pas soumises à ce genre de choses. Bon, maintenant c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, hein. Mais ces contradictions internes existent, et bien sûr, on a tout à fait l'intention de travailler là-dessus, bien entendu.
Donc on peut compter à la fois sur nos propres forces et sur les forces des capitalistes eux-mêmes pour les faire échouer.
Sur nos propres forces, ce sera bien plus sérieux.
Merci Frédéric.
Un bien beau film pour les luttes que l'on oublie souvent, c'est « Moi, il y en a vouloir des sous » de Jean-Yann. Et nous allons écouter un petit extrait de la bande-son.
N'importe quoi pour du pétrole.
Et oui, nous venons d'écouter une chanson sur le pétrole, car c'est en introduction de la chronique de Gaël.
Oui, comme nous l'a expliqué Frédéric Vial, l'accord Europe-Canada libère enfin les multinationales du carcan des réglementations sociales et environnementales. Et l'encre des signatures avait à peine séché qu'on pouvait déjà observer une conséquence concrète de cet accord. Il s'agit de la directive sur la qualité des carburants. Cette directive a été proposée en 2011 par la commissaire au climat, Connie Hedegaard. Elle visait à pénaliser les pétroles dont l'extraction est la plus polluante, notamment le pétrole issu des sables bitumineux, dont le Canada est producteur. Alors les sables bitumineux, c'est un mélange de bitume, de sable de silice, de minéraux argileux et d'eau, une espèce de vase en moins propre. Et leur extraction émet pas mal de CO2, détruit la forêt boréale, pollue l'eau et les sols. Bref, tout pour plaire. Et le principe de la directive sur les carburants, c'était de taxer les importations d'hydrocarbures en fonction des émissions de CO2 engendrées au cours de l'ensemble de leur cycle de vie. Or, on estime que le pétrole canadien génère 23% d'émissions de plus que le pétrole conventionnel. Donc avec cette taxation, le pétrole canadien se retrouvait privé de débouchés en Europe. Et ça tombait mal pour les pétroliers canadiens, qui voulaient doubler leur production d'ici 2015. Alors le Canada a d'abord menacé de porter plainte auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour distorsion de concurrence. C'était en 2012, et les négociations du CETA, l'accord Canada-Union européenne, étaient bien avancées. Alors pour ne pas entraver l'avancement de ces négociations, le Canada a privilégié la voie de la diplomatie et du lobbying. Ainsi, Bruxelles a été envahie par une armée de lobbyistes à plein temps. Et bizarrement, quand Total a décidé d'investir une quinzaine de milliards d'euros dans les sables bitumineux au Canada, la France a été assez réceptive au discours des lobbyistes. La première conséquence de tout ça, c'est que le vote sur la directive, qui était prévu initialement en 2012, a été maintes fois reporté. Puis en 2014, quand on commençait à avoir quelques problèmes avec notre fournisseur russe de pétrole, et qu'on était assez pressé de signer l'accord de libre-échange avec le Canada, la directive a été simplement vidée de son contenu. Et le 6 octobre, la Commission a proposé une nouvelle directive qui dit que ce seront les fournisseurs eux-mêmes qui déclareront le niveau d'émission de CO2 de leurs produits. La nouvelle directive est donc conforme aux attentes des pétroliers canadiens. On va donc enfin pouvoir se chauffer au sable bitumineux. Oui.
Ce qui termine notre dernière chronique, nous allons attaquer l'agenda du mois à venir. Et évidemment, une date importante, c'est la soirée de soutien pour la radio Fréquence Paris Pluriel. 106.3, ne l'oublions pas, dimanche 23 novembre, dès 17h, ça commencera par la diffusion d'extraits du film Lorraine Cœur d'Acier, une radio dans la ville, sur une radio en lutte. Et il y aura derrière un concert avec du punk celtique avec Trous à Noz, du punk rock rapide avec Bafou Torgnol, ou Arnaco Pop Punk, des Louis Ling et de Bombs. Ça sera au Centre International de Culture Populaire au 21 Terre rue Voltaire à Paris. C'est donc le 23 novembre.
Dès ce soir et tout ce week-end, à l'espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, il y a le salon de l'autre livre.
Et évidemment, demain après-midi, c'est la grande manifestation pour une alternative à la politique gouvernementale contre le budget d'austérité, contre les cadeaux au MEDEF. C'est donc samedi 15 novembre à 14h, place d'Enfer, Rochereau, et direction Invalide. Voilà.
La déflation menace-t-elle l'Europe ? Débat organisé par les économistes atterrés le mardi 18 novembre à 18h à l'université Paris Diderot dans le 13e, le site Allofarine Amphi 7C.
Côté ciné, la 12e édition du Festival de cinéma d'attaque Images mouvementées vous proposera une vingtaine de films, de nombreux débats, des rencontres avec les réalisateurs. Ça se passera du 18 au 23 novembre au cinéma La Clé, 21 rue de La Clé, dans le 5e.
Toujours en termes de cinéma, le festival Bobine Rebelle du film documentaire politique et social dans le 93 Seine-Saint-Denis sera le samedi 22 et 23 novembre, le même que celui d'attaque Image Mouvementée, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. À Saint-Denis, festival à prix libre. Plus de renseignements sur diosuniversité.org.
Dette publique, qui doit payer ? C'est une question et c'est aussi une conférence organisée par Attaque Paris 15e, dont Frédéric est le président honoraire. C'est le mardi 25 novembre à 20h, 17 rue de Lavre, Paris 15e.
Et pour prolonger ce que Frédéric nous disait tout à l'heure, une pièce de théâtre citoyenne et satirique sur le grand marché transatlantique. C'est mercredi 26 novembre à 19h30 à l'espace Gendarme, le centre sportif, salle de conférence du 2e arrondissement, 17 rue Léopold Bellan.
Le jeudi 27 novembre à 19h30, au bar-restaurant Le Lieu Dit, 6 rue Sorbier dans le 20e, Éric Hazan et Frédéric Lordon reviendront ensemble sur les thèmes évoqués dans « À nos amis du comité Invisible ». Plus de renseignements sur www.lelieudit.com.
En vue de la conférence Paris Climat 2015, vous pourrez vous mobiliser contre le capitalisme et pour la planète avec Christophe Aguiton le 28 novembre à 20h à l'espace Comme vous et moi, 5 rue de la Révolution à Montreuil.
Ainsi s'achève notre émission. Nous remercions notre invité Fred Vial de la Commission Europe d'Attaque et puis tous les chroniqueurs, Alex, Boris, Gaël, la charmante voix de Magali dont la chronique n'est pas passée et Claude à la technique. On termine en écoutant le Cirque Plume, Tempus Fugit, la chanson Le Balancier.